Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
This is the 20th observance of World Press Freedom Day. All journalists, of course, all media, need to be able to do their jobs.
Ban Ki-moon s'exprime à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté d'expression. Droit fondamental, elle-même la liberté d'expression crée les conditions nécessaires à la protection et la promotion de tous les autres droits de la personne humaine. Mais son exercice, selon le numéro 1 de la diplomatie mondiale, ne va pas de soi. Il requiert un environnement sûr, propice au dialogue, dans lequel chacun peut s'exprimer librement et ouvertement sans crainte de représailles. Escale à l'ONU à New York, nous sommes les 2 et 3 mai, journée de festivité à l'ONU pour honorer Sa Majesté la presse et les journalistes, ses compagnons de parcours. Nafaya Kopost, bienvenue à tous et à toutes. Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, l'ONU se mobilise autour de la sécurité des journalistes. Des responsables des Nations Unies ont lancé un appel à l'action pour garantir leur sûreté dans tous les pays. Selon Delphine Helgand, de Reporters sans frontières, le bilan de 2012 des meurtres et atteintes à la liberté d'expression a été l'un des plus lourds de l'histoire récente.
L'année 2012 a été l'année la plus meurtrière depuis le début de nos comptes, c'est-à-dire que 88 journalistes ont été tués, mais aussi de nombreux journalistes sont en prison. Et surtout, les 5 prisons les plus importantes pour les journalistes sont des pays auxquels on ne pourrait peut-être ne pas s'attendre, puisque la première pays dans cette catégorie est la Turquie. La Turquie, la Chine, l'Érythrée, l'Iran et la Syrie sont les pays qui comptent le plus grand nombre de journalistes en prison aujourd'hui.
Et puis, il y en a de ceux qui sont encore plus vulnérables en temps de guerre, les freelancers, comme Tim Hetherington et Chris Hondros, deux journalistes pigistes morts de leurs blessures en Libye à la suite d'une explosion aléatoire dévastant les rues de Misrata. Dans un documentaire dédié à la mémoire de Tim Hetherington et présenté aux Nations Unies le 2 mai 2013, ses amis Sébastien Junger et James Brabazon rendent hommage à un collègue qui a voulu rendre compte d'une autre réalité. Une réalité qui n'est pas dénaturée par le filtre des médias, la vie et le temps de Tim Hetherington est un documentaire qui traite de la problématique de la ligne de front, une expression qui n'a plus de sens aujourd'hui dans des conflits essentiellement urbains où soldats, journalistes et civils sont indifféremment la cible des bombes et où la limite à ne pas franchir est incertaine. Entretien avec James Brabazon sur le documentaire « Quelle est la route pour la ligne de front ?» à partir d'ici.
What is the thinking behind the title?
Quelle est l'idée derrière le titre du film?
The title of the film.
Le titre du film provient directement d'une citation de Tim le jour où il a été tué. Alors qu'il se dirigeait vers la ligne de front à Misrata en Libye, il a dit « Quelle est la route pour le front à partir d'ici ?» Et c'est de là que littéralement le titre est venu. Mais maintenant pour Tim, mais aussi pour nous, c'est une question beaucoup plus large. Car certaines lignes sont très évidentes et très claires, mais d'autres peut-être où les limites personnelles ou professionnelles sont beaucoup plus difficiles à trouver, ne le sont pas. Et je pense que c'est ce que Tim essayait de faire dans son travail, de trouver ses propres limites et puis de les pousser encore plus loin. Donc où étaient les limites de Tim et comment il a poussé son travail dans la limite du possible, cela reste un point d'interrogation.
So where was Tim's front line? And how was he going to take his work as far as he could?
Quelqu'un dans le film, je ne sais pas si c'était vous ou quelqu'un d'autre, a dit qu'il était très proche de comprendre, pas le concept de la guerre, mais tout ce qui entoure une situation de guerre. A-t-il réussi, oui ou non, à comprendre cela?
Parce que Tim est mort, je pense que nous ne le saurons jamais. Vous savez, c'est une bonne question, mais en fin de compte, on aurait pu mieux comprendre la guerre s'il avait survécu. Peut-être que dans ses dernières minutes, avant qu'il ne perde connaissance, peut-être à ce moment-là, Tim a vraiment compris ce qu'était la guerre.
Mais ce qui est fabuleux dans son histoire, c'est qu'il ne s'agit pas de la guerre, mais de la densité des relations humaines entre des personnes qu'on imagine avoir aucune humanité.
Je pense que Tim a vu très clairement clairement que les choses qui nous unissent en tant qu'êtres humains sont plus fortes que les choses qui nous séparent. Et je pense qu'il voyait essentiellement l'humanité dans tout le monde. Tim n'était pas intéressé par la pornographie de la guerre. Il n'était pas intéressé par l'armement ou les explosions, les balles. Il était intéressé par les gens de guerre. Et je crois qu'il a compris très clairement pourquoi ces jeunes hommes étaient motivés pour aller au combat. Pourquoi ils sont allés, mais surtout... Il a compris ce qui les maintenait là-bas. Tant que la société n'a pas compris cela, il sera extrêmement difficile d'empêcher ces jeunes hommes d'aller à la guerre.
Et puis même s'il est confronté à des situations très difficiles, Tim est incroyablement joyeux. Il plaisante toujours, il rigole. Et les images qu'il saisit de ces moments de la guerre ont à peine à voir avec la guerre.
L'indicible horreur de la guerre est qu'elle est parfois amusante. Et pour comprendre cette attirance vis-à-vis du combat, il faut comprendre comment il était important de comprendre ce que c'était pour Tim de retourner au front. Pourquoi surtout il riait et plaisantait au combat. À travers cette compréhension, on comprend aussi la psychologie de la guerre. C'est quelque chose qui le motivait. Et je pense, comme vous le dites, qu'il est devenu très proche de comprendre cette psychologie. Je pense que la guerre donne l'unique occasion dans la société aux hommes de s'aimer inconditionnellement. Je pense que ce film, s'il ne dit rien d'autre, dit « bonne chance, j'espère que vous y arriverez ».
Tim, aussi apprécié autant pour ses qualités humaines que ses qualités esthétiques qui ont contribué à redéfinir la photographie du conflit, que ce soit au Libéria ou en Afghanistan, avec ses reportages sur les enfants aveugles ou ses images sur les soldats endormis, n'a pas donné à l'audience occidentale ce qu'elle attendait de lui. Témoignage de Christopher Anderson, photographe ayant partagé un studio avec Tim à Brooklyn.
Tim, c'était quelqu'un qui allait dans les zones de conflit, bien sûr, pour sa nécessité de raconter ce qui se passait, mais aussi c'était un choix personnel, une recherche de soi-même, en fait. Donc il y a ça fonctionne sur plusieurs niveaux. Je crois que ce qui intéressait à Tim...
La solidarité du groupe, c'est cela ?
Oui, un peu ça, mais aussi ce qui est une micro-société d'une relation presque familiale.
Donc c'est toute la contradiction, la guerre quand même c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose de sanguinaire, mais au sein d'un groupe qui fait la guerre, il y a des relations extrêmement fortes.
Et même tendres.
Qu'est-ce qui l'a tué ?
La curiosité, peut-être.
Chaque jour, les journalistes font face à de nouvelles menaces parce qu'ils contribuent à garantir la transparence et la responsabilité dans les affaires publiques. Ils sont souvent la cible de violences. Ils sont trop nombreux à être victimes d'intimidations, de menaces, trop nombreux à être soumis à la détention arbitraire et à la torture, souvent sans recours légal. Delphine Helgand, de Reporters sans frontières, en témoigne au micro de Florence Westgaard.
Quand on parle de violation de liberté de la presse, ce qui est le plus marquant, ce sont les meurtres, les emprisonnements, mais en règle générale, les violations sont bien plus subtiles, bien plus personnelles. Il peut s'agir de menaces, il peut s'agir aussi de législation en place dans certains pays qui limitent l'accès à l'information, qui limitent la protection des sources. La majorité de notre travail des violations de la presse concerne des journalistes locaux qui essayent de faire leur travail dans leur propre pays. Je pense à des journalistes éthiopiens, érythréens que l'on doit aider. Je pense à des journalistes en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, dans des pays qui sont souvent oubliés de la grande presse internationale, mais où les journalistes sur place essayent de survivre et où essayent en tout cas de faire un travail journalistique digne de ce nom.
Le 3 mai de chaque année a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1991. Le thème choisi cette année a pour ambition de susciter une action internationale en vue de protéger la sécurité de chaque journaliste dans chaque pays et de briser le cercle vicieux de l'impunité. La Grèce compte parmi les pays les plus engagés dans ce sens. Son représentant permanent adjoint aux Nations Unies milite en faveur de la mise en œuvre du plan des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la lutte contre l'impunité. Dimitris Karamitsos-Dzires, avec qui je me suis entretenu après la projection du film « La vie et le temps » de Tim Hetherington.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en plus. Les pays ont le droit de mettre sur place un système de protection, mais le problème, c'est comment on fait pour l'application de ce système, si vous voulez.
Comment un journaliste qui travaillerait dans les mêmes conditions dans lesquelles travaillait Tim aurait pu survivre à Misrata avec un plan d'action robuste de protection des journalistes en temps de guerre?
Écoutez, tout d'abord, si on parle de situation dans un pays, le pays membre des Nations Unies serait obligé de respecter ce plan d'action et ses provisions. Et si on ne le fait pas, l'ONU a des moyens de l'enforcer. Il y a bien sûr des cas comme le cas de Misrata où c'était vraiment une situation en dehors du contrôle pays. Dans ce cas-là, chaque cas est différent, mais il y avait des forces, des groupes armés qui pourraient être persuadés ou même forcés à avoir des mesures de protection pour les journalistes. Et c'est une autre question, c'est aussi qu'est-ce que leur industrie va faire, c'est-à-dire les grandes compagnies ou groupes journalistes qui achètent cette information ou obtiennent ces reportages. Et aussi, ils ont des obligations. Par le plan d'action, les pays membres seront finalement incités à adapter leur propre législation qui aura des répercussions positives, je pense, sur le plan de l'industrie aussi.
En plus des États, les Nations Unies ont pour mandat de protéger les journalistes. L'UNESCO est l'agence de l'ONU chargée de promouvoir la liberté d'expression à travers le monde. Philippe Kridelka, chef du bureau de l'UNESCO à New York, énumère les actions menées par son organisation pour maintenir haut la barre le plaidoyer en faveur de la sécurité des journalistes et la lutte contre l'impunité.
Qu'est-ce que nous faisons depuis plusieurs années maintenant, chaque fois qu'un journaliste perd la vie parce qu'il fait ses fonctions ou est victime, parce qu'il fait son métier ou est victime de violence, nous écrivons, l'UNESCO écrit aux autorités nationales pour leur demander quelles sont les actions entreprises pour trouver les coupables et les punir. Et l'UNESCO publie sur son site web, c'est disponible dans les 6 langues de l'ONU, la liste de ces courriers que nous avons envoyés et les réponses que nous avons reçues. Donc les États qui coopèrent avec nous pour trouver les coupables et les punir et les États qui ne nous ont pas apporté de réponse. Alors, est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. C'est dans ce cadre-là que le plan d'action de l'ONU pour la sécurité des journalistes a été élaboré. Nous essayons d'élaborer les bonnes pratiques. Par exemple, la Colombie ou les Philippines, le Mexique est un pays également qui fait des efforts. Dans le cas de la Colombie, par exemple, ils ont mis un programme en direction des magistrats colombiens qui enquêtent sur les crimes dont sont victimes les journalistes, afin de protéger ces magistrats qui enquêtent pour débusquer et punir les coupables des crimes contre les journalistes. Il y a là une bonne pratique que l'UNESCO essaie de propager dans le monde.
Et au milieu de tout cela, les bonnes nouvelles nous arrivent de là où on ne les attend pas, du Myanmar, où des progrès significatifs ont été accomplis en matière de liberté des journalistes et de la libre expression. Delphine Helgand.
Une des plus importantes améliorations qu'on a observées l'année dernière, c'est évidemment ce qui s'est passé en Birmanie. On observe un changement qu'on peut considérer comme incroyable, imprévisible. Au niveau de la liberté de la presse, bien sûr, la situation des droits de l'homme reste très tendue, très difficile. Mais l'année dernière, tous les journalistes emprisonnés en Birmanie ont été relâchés. Le système de censure a été aboli. De nombreux médias qui étaient en exil ont été autorisés à revenir en Birmanie. Donc, vraiment des améliorations qui étaient inimaginables il y a encore quelques années. Bien sûr, beaucoup de réformes restent à accomplir, mais une amélioration qui est vraiment à souligner et à encourager.
En espérant que d'autres pays et que les mauvais élèves de la démocratisation de la presse et des médias suivront ce bon exemple, afin que Sa Majesté la presse et ses compagnons de parcours puissent mieux s'exprimer dans un monde exempt de violences, de menaces, de tortures et de violations commises contre ceux qui ont pour métier de nous tenir informés. Hommage à Tim Hetherington et à tous ceux qui ont perdu la vie au service de la libre expression. Cette édition d'Escale vous a été proposée avec la collaboration de l'UNESCO et en partenariat avec la mission permanente de la Grèce aux Nations Unies. Maa Fayek et toute l'équipe de réalisation vous remercient de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle escale et une nouvelle destination sur les ondes de la radio de l'ONU.